Bonsoir. Merci à toutes, merci à tous de participer nombreux à cette nouvelle soirée des Jeudis de l'Ordre. À l'initiative et à la demande de Manuel Munoz Rivero, conseiller médical auprès de la directrice des soins de proximité à l'ARS PACA, nous avons invité Frédéric Retornaz, médecin interniste à l'hôpital européen, pour nous parler de la prise en charge médicale des Covid longs. Vous aurez la gentillesse de poser au fil de la discussion, au fil de l'exposé, vos questions pour qu'elles soient traitées à la fin. Le prochain jeudi de l'ordre, le 14 octobre, sera animé par Florent Sansini, alias docteur Flo, et traitera de Internet et réseaux sociaux. Que peut faire ou ne pas faire le médecin? Nous sommes heureux d'accueillir Madame Isabelle Guéroult, élu du CD 84, membre du CD du CER et de la Chambre disciplinaire. Un mot pour rappeler sur le site de ce CD 13, My Medical Map, recours majeur pour tout remplacement. Ça, c'est pour que Simon continue d'agir et d'agir bien. Merci à notre présidente, merci à tous les membres de notre conseil et à notre belle équipe qui travaille à la communication. Monsieur Munoz, je vais te laisser la parole. Tu vas dire quelques mots avant que Frédéric Retornaz ne parle. Merci.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Un grand merci à Madame la Présidente du Conseil de l'Ordre et à tous les membres du Conseil de l'Ordre pour m'avoir invité, mais aussi et surtout pour avoir organisé cette formation aussi rapidement. Alors, un groupe de travail régional a été mis en place et a travaillé entre avril et juin 2021 et a permis de produire un document de cadrage régional sur la prise en charge des symptômes prolongés du Covid-19. Voilà. Les publications scientifiques sont nombreuses, mais pour l'instant, de nombreuses incertitudes planent encore autour de ces symptômes, hein, de ces syndromes, hein, tant sur la prévalence de la maladie que l'éthiopathogénie de certains symptômes, et voire même la définition qui n'est pas homogène entre les différentes études. Et j'en veux pour preuve les différents noms qui sont utilisés. On parle de Covid long, on parle de syndrome post-Covid, on parle de symptômes prolongés de la Covid, et je pense que notre consoeur, Mme Retornaz, va nous éclairer sur ces sujets-là. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que la communauté scientifique aujourd'hui considère comme un fait établi ces symptômes et ce syndrome. Voilà. Pour certains patients, les conséquences sociales et économiques de ces symptômes sont particulièrement lourds. Donc, pour l'Agence régionale de santé, il y a un vrai enjeu de santé publique et en particulier d'organisation du système de santé, et notamment dans les filières entre la ville et l'hôpital, afin d'éviter au maximum l'errance médicale de ces patients. Voilà. Un grand merci et très bonne formation.
Donc, bonsoir à tous. Merci de m'avoir invité à ces Jeudis de l'Ordre. Je suis très heureuse de partager avec vous un certain nombre de questions, d'interrogations, surtout non résolues à ce jour. Alors, je vais commencer ma présentation avec deux sites qui sont des sites d'associations de patients, qui sont le site Après J20 et Tous Partenaires Covid, qui sont des sites associatifs et qui ont mis volontairement sur leur page internet des témoignages de patients et des témoignages qui sont, comme le disait M. Munoz tout à l'heure, souvent douloureux. Et je vous invite à regarder un petit peu les présentations qui sont faites et puis à voir un petit peu ce polymorphisme, ces patients qui racontent leur vie et qui racontent un petit peu ce qu'ils vivent au quotidien, notamment sur le plan personnel et professionnel. Et la question qu'on se pose tous, c'est ça, hein, c'est que comme pour les syndromes de fatigue chronique, comme pour toutes ces pathologies où on a plus de questions que de réponses, la question est de savoir si ce sont des malades imaginaires ou si réellement il y a une réalité avec ce Covid. Alors, il y a une réalité. Déjà, si on regarde un petit peu ce que nous disent les sites des tutelles et autres, clairement, depuis le 6 septembre, vous avez sur le site amélie.fr une information sur le Covid long pour les patients et avec des explications assez simples où le choix a été donné de parler de Covid long après 4 semaines. Et on verra la problématique de toutes ces durées et les enjeux. Sur le site de l'ARS, depuis le 14 septembre, hein, j'ai fait attention, j'ai regardé, vous avez également une note de cadrage, un document pour la prise en charge que vous pouvez consulter et qui va nous servir également de fil rouge. Et puis, au niveau de la Haute Autorité de Santé, des collègues ont été saisis fin décembre 2020 et ont travaillé notamment pendant les vacances de Noël, compte tenu d'un afflux de patients qui n'était pas prévu, d'après ce qu'ils ont dit. Et l'HAS n'a pas fait comme d'habitude un consensus avec des experts, mais a décidé dans le cadre de l'urgence d'élaborer des points stratégiques, quitte à éventuellement y revenir, d'après ce que l'on savait finalement d'autres types de prise en charge. Et je vais vous proposer d'utiliser les 12 points essentiels de l'HAS. Je les ai classés dans un ordre qui me paraissait logique, qui ne sera pas forcément l'ordre chronologique. Mais je voudrais, à travers ces points, détailler quelques domaines d'interrogation, en tout cas. Et puis, vous pouvez aller sur ce site également. Il y a un webinaire qui a été fait mi-avril avec les 4 spécialistes, qui est très intéressant, qui est accessible. Vous avez les diapos et je m'en sers également dans ma présentation. Alors, si on regarde les 12 points essentiels, sont des réponses sous forme rapide. Ben, clairement, oui, il y a des symptômes prolongés qui peuvent survenir dans cette infection virale et puis qui peuvent survenir aussi chez des patients qui ont fait des formes peu sévères. Et ces formes, elles sont très polymorphes, on va le voir. Et puis, elles évoluent aussi de façon un petit peu déroutante pour nous médecins. Alors, on va voir les symptômes qui sont les plus fréquents. On ne va pas s'étendre sur l'épidémiologie de façon complètement exhaustive parce qu'il y a beaucoup de papiers qui sortent. Mais clairement, ces patients rapportent dans cette méta-analyse récente en majorité de la fatigue. Et la fatigue, on ne sait pas bien faire, ce n'est pas spécifique, on ne sait pas ce que c'est. Et c'est souvent très difficile à prendre en charge. La deuxième chose, c'est qu'un grand nombre de patients présentent des troubles neurologiques, notamment des céphalées, des troubles de l'attention, là aussi, ce fameux brouillard cérébral qui est assez déroutant. Et puis, si on regarde à un mois, pratiquement 80% des patients décrivent des symptômes, quels qu'ils soient, et notamment des symptômes qui nous perturbent un petit peu, cette fameuse dyspnée, cette intolérance à l'effort. Et puis, de façon surprenante, j'ai vu également la perte de cheveux qui était signalée. Alors ça, c'est une étude qui a été faite à Cochin avec 70 patients. Et on voit qu'en gros, il y a 2/3, 2/3, 2/3. Vous avez 2/3 d'atteinte neurologique quand on regroupe tous les symptômes, les céphalées, les troubles cognitifs, etc. Cette fatigue qui va être le fil rouge de tous les patients. Et puis des anomalies un petit peu bizarroïdes, cette espèce d'essoufflement, de dyspnée, des palpitations, des sensations de douleur thoracique, des tachycardies posturales, des symptômes un petit peu diffus. Et ce qui est étonnant également, toujours dans cette étude, donc vous voyez que c'est une étude qui avait surtout regardé des patients qui étaient considérés des patients externes, des patients qui n'y avait que 8% des patients qui étaient hospitalisés, majoritairement des femmes, 78% de femmes. Et puis, dans cette étude, 90% des personnes présentaient au moins 3 symptômes, ce qui était quand même étonnant. Et puis, ce qui est remarquable également, c'est que vous voyez qu'on retrouve donc dans la description des symptômes du Covid à la phase aiguë, ce que l'on observe en clinique, c'est-à-dire des symptômes très polymorphes, mais essentiellement la fièvre, l'anosmie, les céphalées, la fatigue, la toux. Mais vous voyez que quand on développe, entre guillemets, une phase prolongée de Covid, ce n'est pas tout à fait les mêmes symptômes et que des patients voient apparaître un certain nombre de symptômes qu'ils n'avaient pas forcément au départ. Alors, bien entendu, la fatigue, on en parlait, mais céphaleuse, oppression thoracique, ces douleurs, les troubles neurosensoriels et puis la tachycardie, ces palpitations, un certain nombre de troubles très 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 non spécifiques si je peux me permettre. Alors ça, c'est une autre étude française, c'est la cohorte French Covid qui a suivi ces patients. Et là, on est sur une cohorte tout à fait différente. Ce sont des patients qui ont été hospitalisés et plus d'un tiers, avaient fait un séjour en réanimation et 72% de ces patients avaient été oxygénodépendants. Donc on n'était pas sur du suivi ambulatoire, mais sur des patients, on va dire, un peu Covid lourd, si je peux prendre cette appellation. Et on voit bien qu'à 3 mois, il y a encore 68% des patients qui décrivent au moins un symptôme de la Covid. Et il reste encore 60% à 6 mois, ce qui est quand même assez énorme. Et à 6 mois, un quart des patients ont encore des symptômes. Donc quand on interroge ces patients tout venant, et ils ont regardé les facteurs de risque de faire finalement, d'avoir une persistance de ces symptômes, bah, c'était le fait d'être une femme, d'avoir beaucoup de symptômes bruyants au départ du Covid, et puis d'avoir été en réanimation ou d'avoir fait en tout cas un transfert en réanimation durant l'hospitalisation. Et ce qu'il faut regarder également, c'est ça, et vous en parliez, M. Munoz, tout à l'heure, un tiers des personnes ne sont pas retournées à l'activité professionnelle à 6 mois. Donc ça, c'est vraiment important à prendre en considération dans la prise en charge de ces patients. Là aussi, c'est une étude internationale qui a comparé donc des patients qui devaient renseigner leurs symptômes sur une application. Vous voyez que les symptômes majoritaires qui étaient décrits, c'est la fatigue et les céphalées. Et là aussi, on retrouvait le fait, à 2 mois, d'avoir une persistance des symptômes. C'était finalement d'être une femme plutôt jeune et d'avoir un certain nombre de symptômes au départ. Là, dans cette étude, c'était plus de 5. Et le facteur âge était pris en compte également. Quand on regarde les données sur le Covid, on veut aussi regarder un petit peu ce qui se passe pour nous soignants, parce qu'on a beaucoup de collègues et on a beaucoup de paramédicaux qui ont été infectés. Et ça, c'est une étude suédoise qui a suivi une cohorte de soignants tout venant à 2, 4 et 8 mois. Et puis, ils ont demandé de déclarer leurs symptômes sur une application. Et on voit que ceux qui ont positivé, en fait, qui ont fait un Covid au fur et à mesure du suivi, ben, sont beaucoup plus impactés. Il n'y a pas que la partie, on va dire, anxiété, charge de travail. Il y a réellement ceux qui ont eu un Covid, que ce soit dans l'activité professionnelle, que ce soit dans l'activité sociale ou l'activité, on va dire, à la maison, un grand nombre de patients de façon significative décrivent des retentissements et un impact de ce Covid. Alors, on ne va pas passer une heure à faire de l'épidémio et à prendre toutes les études, mais là, je vous ai pris une copie d'écran sur un article qui est paru dans Nature Médecine qui a fait la synthèse. Vous voyez que c'est assez difficile de définir quelque chose parce que vous avez des patients qui ont été évalués à 2 mois, à 3 mois, et puis certains à 6 mois. Vous avez des patients où on a des données d'oxygénothérapie pour plus de la moitié, ou des données de réanimation, et puis vous avez des études où les patients sont complètement ambulatoires, ils n'ont jamais été hospitalisés. Donc on peut comprendre qu'en termes de prévalence d'épidémiologie, on n'est peut-être pas sur les mêmes patients, et on n'a peut-être pas les mêmes conséquences à voir. Et là, j'ai repris une diapo que j'ai bien aimée de l'HAS, parce que clairement, l'HAS distingue des patients qui sont, entre guillemets, des Covid longs, mais qui sont des patients qui sont passés par une filière lourde hospitalière, des patients qui ont fait de la réanimation, des patients qui ont eu une forte atteinte pulmonaire. Et on voit que dans ces patients, les complications post-op, tous ces syndromes post-réanimation, c'est une majorité d'hommes, c'est ce qu'on a observé de toute façon au départ dans les premières vagues. Et la moyenne d'âge, elle est, on va dire, à plus de 60 ans. Et par contre, ce qui pose problème, et c'est clairement ces patients-là qui vont nous impacter plus, parce qu'on comprend moins bien probablement, c'est des personnes qui finalement, 4 semaines après un petit Covid, on va dire, un Covid modéré, se retrouvent à réexpérimenter des symptômes et parfois des symptômes qui sont très lourdement invalidants. Et dans cette cohorte-là, ce qu'on voit, c'est que ce sont souvent des femmes avec une moyenne d'âge de 45 ans, et on estime que c'est environ 10 à 20% des patients qui sont touchés à 3 mois. Alors, si on demande une définition du Covid long, vous avez sur le site de l'HAS, on vous explique qu'il faut à partir de 4 semaines consulter. Est-ce qu'on peut attendre quand même 3 mois puisque certaines études ont évalué ces patients-là? Est-ce qu'il faut attendre plus longtemps? À partir de quel moment on va estimer que ce n'est pas normal de continuer à avoir des symptômes, finalement, c'est peut-être ça la question. Et dans certains papiers, vous voyez qu'il y a des différences entre, on estime qu'entre 1 mois et 3 mois, on peut parler de Covid persistant, Et puis, après 3 mois, clairement, on parle de Covid chronique, syndrome post-Covid. Après, il y a des tas de termes. C'est pas à moi de juger de la pertinence des termes. Et la question qui, quand même, pour moi, est importante, c'est est-ce qu'on parle des mêmes patients et est-ce que c'est la même chose d'avoir eu un Covid ambulatoire ou d'avoir eu un Covid hospitalier et est-ce qu'on doit faire la même chose en termes de suivi? Et puis la deuxième question, c'est est-ce que c'est la même chose d'avoir fait un Covid grave ou un petit Covid en termes de retentissement? Alors la question, c'est est-ce que finalement, on connaîtrait quand même pas un peu ces syndromes post-infectieux? Est-ce qu'il y a dans la littérature des choses qui pourraient nous aider? Ben, on oublie quand même que si vous faites une pneumonie aiguë communautaire classique, la moitié des patients qui sont interrogés, 6 mois après, ils sont encore fatigués. Et d'un seul coup, on découvre un petit peu ce côté un peu post-infectieux, mais les médecins savent qu'il y a des patients qui récupèrent beaucoup plus lentement que d'autres pour d'autres pathologies. Et puis, on a regardé également ce qui s'est passé pour l'infection à SARS-CoV-1, où là, on voit également que les patients, ça c'est une étude qui a été faite jusqu'à 2 ans, hein. Alors je suis désolée, c'est un tout petit peu petit, mais on voit que ces patients continuent à expérimenter des symptômes très invalidants, là c'était le questionnaire SF36, dans tous les domaines, jusqu'à 2 ans après l'infection. Donc clairement, une frange de la population va finalement se retrouver dans cette situation probablement. Et puis quand on regarde également qu'est-ce qui se passe, dans la partie reprise du travail, vous voyez que 30% des gens qui travaillent dans le domaine de la santé, du soin, n'ont pas repris à 2 ans après un SARS-CoV-1. C'est énorme. Enfin, c'est énorme, je trouve ça énorme. Donc, vous voyez, c'est quand même, il y a un vrai impact de tout ça. Alors, je me suis permis une petite métaphore, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais clairement, pour moi, je distingue les patients qui ont eu un Covid grave, qui ont été ventilés, qui ont été à l'hôpital, qui ont eu un certain nombre de... où le scanner était complètement très altéré, avec des embolies pulmonaires, avec des... Et pour moi, ça, c'est des patients où il y a eu, en gros, le poison très aigu et qui a agressé. Et c'est ce qu'on regarde ici, c'est ces abeilles qui sont mortes parce qu'il y a eu, à un moment, une très grosse situation agressive. Et puis, ce qu'on ne comprend pas, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'effondrement des colonies des abeilles. C'est-à-dire, il n'y a pas de pesticides retrouvés dans la ruche, il n'y a pas de vraie anomalie quand on fait des analyses chimiques. Et pourtant, les abeilles, elles sont mortes ou elles sont en mauvaise santé. Et donc, je vais faire un parallèle entre ces deux types de populations. Peut-être que l'avenir dira que ce n'est pas le cas, mais on a quand même ce sentiment-là. Alors, j'ai un peu listé quelles sont les pistes actuellement que l'on a sur le Covid long. J'ai fait le choix de prendre quelques exemples, hein, parce que c'est trop long pour être exhaustif, mais clairement, la première partie, et ça c'est ce qu'on fait tous les jours, c'est la partie comorbidité, c'est des patients qui ont été hospitalisés, c'est des patients qui ont eu un Covid assez grave, et puis finalement il y a une comorbidité qui est démasquée, on le voit pour l'insuffisance cardiaque, on le voit chez les seniors pour les troubles cognitifs. Et puis aussi, on a des patients qui finalement vont garder des séquelles fibrotiques. Je vous renvoie à ce très beau papier du BMJ, qui est tout récent, et qui a fait vraiment le détail de qu'est-ce qui se passe dans un poumon qui est agressé au niveau cytokinique, qu'est-ce qui se passe au niveau des fibroblastes, qu'est-ce qui se passe donc dans tout ce remodelage, et pareil pour la partie cardiaque. Et donc, ces patients-là, on a des séquelles organiques, on a des surprises également quand on fait des IRM cardiaques à certains patients qui, à distance, où on voit qu'il y a encore des signes de myocardite ou d'autres choses. La question du Covid long, elle va poser de toute façon la question des facteurs génétiques, un petit peu comme dans les syndromes de fatigue chronique. Pour l'instant, on n'a pas encore des cohortes assez grandes pour pouvoir y répondre. De la même façon, les facteurs hormonaux sont souvent cités, notamment les désordres du cycle du cortisol. Et là, c'est pareil, je n'ai pas trouvé de papier très éclairant, on va dire. Quelque chose qui fait le buzz en ce moment, c'est la question de savoir est-ce que c'est vraiment le virus SARS-CoV-2 qui pose problème, qui persiste ou qui a fait des dégâts et qui continue à interagir, ou est-ce qu'il y a d'autres virus qu'on a pu expérimenter avant, notamment l'Epstein-Barr virus, qui finalement, à la faveur de l'immunosuppression, a une dérépression et se permet de se rappeler aux patients. Et il y a un très beau papier qui vient de sortir où ils ont montré que dans les longs Covid, il y avait une résurgence, possiblement quand on suivait ces patients, de l'infection à EBV. Il y a d'autres papiers qui vont sortir. Alors ça, c'est l'inflammation, l'activation cytokinique, ça c'est ce qu'on sait à la phase aiguë. Il y a peut-être aussi la même chose à la phase chronique. Alors il y a un très beau papier qui a été fait, je crois que c'est à Singapour, sur justement l'inflammation cytokinique. Ils ont pris des patients, ils ont regardé quels étaient les paramètres qui restaient inflammatoires et en dosant des cytokines de façon régulière. Et ils montrent que clairement, chez les patients qui ont des Covid longs, un certain nombre de cytokines restent à des taux supra-physiologiques comparés aux patients qui n'ont plus de symptômes. Donc c'est une des pistes actuellement. Après, il y a l'autre piste, et vous verrez dans les fiches de l'HAS, il y a tout un chapitre sur la dysautonomie. Et ce n'est pas pour rien, parce que ces patients, clairement, ont des signes de dysautonomie. Et je me suis permis de faire un comparatif avec ce que l'on sait, et avec un papier qui a vraiment fait la synthèse dans les syndromes de fatigue chronique, ce qu'on appelle les encéphalomyélites myalgiques post-virales, notamment, où on voit bien que, qu'on soit dans le cadre de l'immunité, il y a des anomalies de l'immunité innée, des anomalies de l'immunité adaptative, des phénomènes de neuro-inflammation qui persistent, des sécrétions de cytokines pro-inflammatoires, ça a été bien décrit notamment dans les syndromes de fatigue chronique post-BV. Et puis il y a une autre partie qu'on connaît moins bien et qui est beaucoup plus difficile d'ailleurs à explorer, c'est tout le dysfonctionnement mitochondrial avec le stress oxydatif. Et ça revient sur le devant de la scène. Il y a eu pas mal de papiers sur l'Epstein-Barr virus, mais clairement, il y a des questionnements sur ces stress oxydatifs aigus ou chroniques et sur le dysfonctionnement mitochondrial. Et puis, je fais un petit parallèle avec la dysbiose, parce que ça, c'est un sujet qui me passionne. Et il y a un seul papier, pour l'instant, de qualité, qui a été publié, où ils ont comparé, ils ont fait à la fois une analyse sur les symptômes, et puis à la fois une analyse en prenant à la fois donc, du shotgun, c'est-à-dire ils ont regardé un petit peu les expressions bactériennes, et de l'autre côté, ils ont fait de la métabolomique pour voir quels étaient finalement les produits métaboliques qui étaient anormaux. Ils ont comparé entre des LC et puis des longs Covid. Et là, c'est pareil, il y a franchement des intacts dysbiotiques qui sont des groupes qui peuvent se séparer, on va dire, en termes notamment métaboliques. Et puis, qu'en est-il du stress? Parce que clairement, je crois que depuis un an et demi, on ne peut pas dire que personne n'était épargné. Je crois que que ce soit les patients, que ce soit nous-mêmes, on a tous subi un stress psychologique. On connaît l'impact du stress sur beaucoup de domaines. Et puis, on connaît aussi l'impact du stress comme facteur d'entretien. Dès qu'une situation se décompense, le fait de surajouter du stress entraîne un certain nombre d'anomalies. Et toujours, je vous invite à lire cet article du BMJ où on voit en fait finalement les cascades auto-inflammatoires avec la neuro-inflammation au niveau des cellules gliales notamment, avec toutes les conséquences qu'il y a dans ce qu'on appelle la fatigue centrale et puis dans la fatigue périphérique au niveau des muscles. Donc c'est vraiment une piste très intéressante sur les facteurs déclenchants d'entretien et surtout sur les métabolites qui sont sécrétés. Je me suis permise de faire un faux modèle biopsychosocial du Covid long, mais en reprenant c'est un petit peu ce que j'ai lu. J'ai essayé de le calquer un petit peu sur ce qui est décrit dans les syndromes de fatigue chronique. Clairement, je pense que tout le monde ne fera pas un Covid long et que pour l'instant, on ne sait pas qui va en faire un. Et il y a sûrement des déterminants génétiques ou épigénétiques avec des patients qui ont déjà probablement un HLA qui est peut-être familialement pas tout à fait adapté. En épigénétique, on voit bien qu'il y a beaucoup de patients qui ont eu un certain nombre d'événements de vie, qui ont pu avoir une résilience et puis le Covid vient les couper en deux. Et puis, il y a tout le facteur stress, ça c'est clair. Et si on regarde finalement les parcours et les trajectoires, bien un certain nombre de patients vont peut-être faire une réactivation EBV ou une co-infection. Et puis vous voyez que finalement, il y a de l'inflammation de bas grade qui est décrite, il y a une activation cytokinine avec toutes les cascades que l'on connaît et les implications dans la fatigue. Il y a la partie dysbiotique avec l'axe gut brain, mais là aussi, probablement par la sécrétion de métabolites ou d'autres médiateurs. Et puis, il y a aussi cette hyperperméabilité membranaire dont on commence à parler avec une augmentation avec des translocations bactériennes qui auto-entretiennent les phénomènes inflammatoires, comme on l'a vu dans certains papiers. Une piste qui est intéressante, C'est l'auto-immunité. Donc, vous savez que dans les Covid aigus, on a des tas d'anticorps. On dit souvent, les patients, ils crachent des anticorps. On l'a vu notamment pour la partie thromboembolique. Mais ces anticorps persistent chez un certain nombre de patients. Et il y a une équipe allemande qui travaille sur les anticorps anti-système nerveux autonome. Vous avez vu qu'un certain nombre de patients ont des troubles dysautonomiques sévères et ont mis en évidence dans le syndrome de fatigue chronique post-infectieux. Ils commencent à travailler donc sur ces syndromes de fatigue, sur ces fameux auto-anticorps qui pourraient être responsables notamment de phénomènes de vasoconstriction, de phénomènes dysautonomiques qui aggravent le système. Et puis, bien entendu, l'altération mitochondriale avec tout ce qui est anomalie du stress oxydant, anomalie des protéines de stress. Tous ces symptômes qui sont induits et auto-entretenus, finalement, il y a sûrement une boucle où plus vous êtes mal, quand vous étiez bien portant, tout va bien, vous avez une pandémie, vous faites un petit Covid, et puis vous n'arrivez plus à vous lever, dès que vous faites le moindre effort, vous êtes essoufflé, le lendemain, vous le payez, finalement, c'est quand même déroutant. Nous, on a tendance à dire, allez-y, bougez-vous, ça va passer. Puis finalement, plus les gens se bougent, certains, plus ça se dégrade. Et je crois qu'il y a vraiment une boucle d'amplification qui peut se créer parce que c'est le stress. Et j'aime beaucoup cette photo parce que je crois que c'est important. Peut-être que dans le Covid, on va peut-être vraiment croire ces patients. Ça fait des années que je travaille avec des patients qui ont des syndromes de fatigue chronique, notamment post-infectieux. Ça fait des années que je me bats pour que certains puissent avoir des aménagements et ça ne marche pas forcément. Je crois que le Covid va nous aider à progresser là-dedans. Et voilà, il y a un état de fait, il y a un grand volume de patients qui expérimentent les mêmes symptômes. Il va falloir qu'on s'en occupe. Alors, pour être un peu plus pratique, quelle est la conduite à tenir? Je vous invite à lire les recommandations de la HAS, tout simplement. Mais clairement, c'est pas parce qu'on est fatigué qu'on a mal à la tête ou qu'on a des palpitations, qu'on a un Covid long ou qu'on a juste du stress. Quand on suit ces patients, moi, je suis assez étonnée de voir que faut vraiment quand même rester très clinique et bien les examiner, ne pas hésiter à vérifier. Bon, ça paraît trivial, mais la thyroïde, vérifier un petit peu ce qui se passe, revérifier pour ceux qui sont dyspnéiques s'il n'y a pas eu des embolies pulmonaires qu'on n'avait pas captées au départ, parce que clairement, beaucoup quand même sont capables de faire des complications après la phase aiguë et qui ne sont pas liées avec un Covid long. Alors, les recommandations, bien sûr, c'est l'examen clinique approfondi, la recherche d'une hypotension orthostatique, la mesure de la saturation. La difficulté étant de doser. C'est-à-dire que, est-ce qu'il faut beaucoup explorer ces patients? Est-ce qu'il faut se dire, une fois qu'on a éliminé l'embolie pulmonaire, une pathologie cardiaque, est-ce qu'il faut se donner un petit peu du temps et rassurer la personne? Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Donc là, je vous ai mis les fiches techniques. Vous voyez, il y a la fatigue, la dyspnée, les douleurs thoraciques, les troubles du goût. Qu'est-ce qu'on fait pour le kiné? Les troubles somatiques fonctionnels, je ne sais pas s'il y aura des questions. Les manifestations neurologiques, enfin, tout est proposé. Là, je vous montre un exemple de la fiche qui a été faite sur les troubles cognitifs. Alors, c'est vrai que le problème de ces fiches, de mon point de vue, c'est qu'en médecine générale, il y a quand même énormément d'examens qui sont demandés. Alors, l'examen, c'est une chose, mais énormément d'échelles qui sont recommandées. Et quand vous mettez à bout toutes les échelles, je pense que le pauvre médecin généraliste, il va passer un certain temps. Alors, c'est peut-être une petite critique, mais ça reste quand même compliqué à mettre en pratique. Pour avoir passé des MoCA tests, je peux vous dire que c'est compliqué, c'est long. C'est un test de dépistage qu'on utilise beaucoup en gériatrie, mais dans un cabinet de médecine générale, c'est quand même pas toujours évident. Alors la réponse, j'aime bien parce que ce qui m'a surprise quand j'ai lu un petit peu sur le Covid, c'était marqué réponse rapide. Et moi, plus je travaille sur le Covid long et plus j'essayais de présenter cette présentation, plus j'avais des réponses lentes et plus je me disais, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je vous donne des réponses rapides. La majorité des patients peuvent être suivis en soins primaires et ça, c'est sûr, c'est évident. C'est le médecin traitant qui connaît son patient, qui connaît l'antériorité et qui est l'interlocuteur principal. Alors après, l'écoute est empathique, ça j'ai absolument pas de doute. Il faut inciter le patient à s'autogérer, à connaître ses limites, continuer à avoir des activités physiques. Ça, c'est très dur. Quand les patients sont fatigués, quand les patients ont mal partout, ils vont vous dire, et quand les patients dont certains ont des troubles dysautonomiques et des intolérances à l'effort, vous pouvez dire ce que vous voulez, ils vont pas y retourner et en plus, certains vont s'aggraver. Donc c'est vraiment compliqué. Alors, les traitements actuels sont essentiellement symptomatiques. Oui, si on avait la potion magique, nous, on serait contents. Il n'y a pas de potion magique pour le Covid long, c'est un scoop. Et puis, la rééducation, elle est centrale. Oui, elle est centrale. Attention, Et attention, la rééducation olfactive, c'est une chose. La rééducation active avec les kinés, c'est très bien. Il faut quand même faire attention aux limites du patient et ne pas le mettre en échec. Il faut la commencer précocement, mais on a des patients qui vraiment n'arrivent pas à se réentraîner et il faut vraiment le respecter parce que sinon, on va auto-entretenir un système, voire l'aggraver. Et puis la question, c'est comment on fait un recours aux professionnels, comment aux organisations pluridisciplinaires, comment on fait un recours finalement sur des patients qui nous posent problème et dans, sous quelle forme. Alors je vous ai mis la diapo qui reprend la note de cadrage de l'ARS. Donc vous voyez que le médecin traitant est au centre. J'ai lu que les plateformes territoriales d'appui allaient pouvoir nous aider à coordonner pour la coordination de ces patients. Donc je pense qu'il y aura la liste et que ce sera une très bonne chose. Et puis en plus, on verra ensuite après comment il faut organiser la prise en charge. Parce que est-ce que vous avez des palpitations, vous allez voir le cardio, vous avez une hyperventilation, vous allez voir le pneumo, vous avez mal partout, vous allez voir le rhumato ou l'interniste. Comment les patients ont tout, donc souvent, donc comment on va faire? Donc la stratégie, ce qui est intéressant, c'est quand même des petites choses faciles. Hein. Les traitements symptomatiques, ben ça c'est bien. Les INS ne sont pas contre-indiqués, ça aussi c'est intéressant de le savoir. Et puis vous voyez, le traitement, l'information, je crois qu'il faut rassurer les patients. On commence à avoir maintenant des patients qu'on a suivis pendant un an. On voit qu'un certain nombre vont s'améliorer spontanément. Et je crois que c'est un message à faire passer. Une grande partie des patients vont s'améliorer, même si on les accompagne pendant quelques mois. Et puis, ben, il restera des patients, effectivement, qui vont malheureusement avoir une situation qui va s'autonomiser. La prise en charge rééducative, elle est fondamentale, adaptée à la condition du patient. Et puis, pour les troubles anxieux, vous avez vu que c'est recommandé. Il y a sûrement des prises en charge qui vont être proposées. Donc, dépister les troubles anxieux. Alors, qu'est-ce qui va se passer demain pour le Covid, hein, on ne sait pas. Mais pour le Covid long, on a quand même la sensation que certains patients vont faire plusieurs épisodes en vague, comme ça, comme les Covid, et puis ils vont finalement récupérer. C'est un peu comme la forêt amazonienne. On peut faire quelques incendies, puis il y a certains patients où l'incendie va être trop important, il n'y aura pas de capacité de résilience. Et puis, de nombreuses questions scientifiques persistent, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Pour finir, je vous ai pris la synthèse de ce qui avait été déclaré comme étude sur le Covid. Vous voyez que les études, elles sont très variables. Il y a des études qui vont être essentiellement épidémiologiques, s'attacher à bien décrire ce que c'est. Des études qui vont être beaucoup plus spécifiques, quelles sont l'action des agents antifibrotiques sur l'apparition des Covid longs. Des études sur le thromboembolisme, les maladies thromboemboliques. Bref, il y a énormément de domaines de recherche. Et vraiment, quand vous regardez, voyez, il y a 160 études là en si peu de temps qui sont sorties sur le Covid long. On est très fiers. Je vous ai mis l'étude qu'on fait à l'hôpital européen qui s'appelle Alcovid, avec un suivi qui est à la fois un suivi clinique et puis il y a des études ancillaires, notamment sur le microbiote, des études avec des épreuves d'effort. Donc on en saura un petit peu plus. Donc en conclusion, la réalité, c'est qu'on a tous des patients qui, quelques semaines, voire quelques mois après, continuent à avoir des symptômes ou redéveloppent des symptômes. Il y a une proportion significative de ces patients quand on voit la quantité de patients qui ont été infectés par le Covid. L'épidémiologie du Covid long, peut-être qu'on va arriver maintenant à voir avec toutes ces cohortes, à savoir finalement quels sont les patients qu'il faut simplement accompagner, ceux qu'il faut vraiment prendre en charge de façon plus précoce, et puis savoir quels sont les facteurs peut-être prédictifs d'évolution vers un Covid très long. Ça n'existe pas encore, mais je pense que ça va arriver. Comment on peut réduire le risque individuel de Covid long, parce que c'est quand même un enjeu personnel pour le patient, mais un enjeu sociétal, notamment pour les problématiques de vie professionnelle, entre autres. Quelle est la prise en charge optimale? Personnellement, je suis désolée, mais je ne sais pas. Hein. Et puis, traquer quand même vraiment, vraiment, vraiment le diagnostic différentiel du Covid, parce que moi, je travaille en médecine interne, donc sur 30 patients, vous avez deux nouvelles pathologies auto-immunes qui arrivent. C'est quand même beaucoup plus que ce que vous voyez tous les jours. Donc, ça se passe pour ma paroisse, mais j'imagine que dans toutes les disciplines, c'est pareil. Donc, vraiment traquer quand même, ne pas se contenter de choses simples et évidentes. Comment on va gérer la surconsommation de soins? On n'a pas fini la quatrième vague. Beaucoup d'entre nous sont encore en phase très active et avoir des patients qui arrivent avec un peu de fatigue, un peu de ceci, mais qui sont sortis du système, comment on va pouvoir les voir, s'en occuper, c'est ainsi compliqué. Donc clairement, le message, c'est c'est rassurer ses patients. Et puis, personnellement, je suis ravie de savoir qu'il y a quand même une grosse réflexion sur les syndromes post-infectieux et que ça va nous permettre aussi d'améliorer le pronostic, j'espère, un jour, d'autres patients qui ont à peu près les mêmes problématiques comme les syndromes de fatigue chronique. Je vous remercie.
Merci Frédéric pour cet exposé brillant et très documenté, mais qui reste au stade des questions, si j'ai bien compris.
Moi, j'ai plus de questions maintenant
plus
qu'avant.
Plus de questions
donc.
Qu'avant. Alors, j'en ai au moins trois. Une première qui est, quelles sont les atteintes pulmonaires observées? On reste dans l'exposé de la pathologie.
Alors, je dissocie tout ce qui est, et là, il y a Alain Poisson peut-être qui m'aidera aussi, je dissocie tout ce qui est fibrose, emphysème, séquelles vraiment, on va dire, organiques du Covid, des syndromes d'hyperventilation. Donc là, c'est deux choses différentes. Quand vous faites des scanners, vous avez des patients qui ont des poumons détruits, c'est évident que ces patients-là, ça va être compliqué pour eux de reprendre le sport. Et puis, vous avez des patients qui vous disent « je m'essouffle, je ne peux pas monter un étage ». À ce moment-là, d'un seul coup, j'hyperventile. Enfin, ils ne disent pas qu'ils hyperventilent. Et ces patients, le scanner est normal. Donc, voilà, il y a deux profils, mais c'est ce qu'on observe très souvent.
Une autre question d'un médecin qui travaille en EHPAD et qui dit « ma question est simple, est-ce qu'il existe des expériences comparables chez les sujets âgés ?» Puisque les sujets âgés meurent plus rapidement, malheureusement. Et est-ce que cette expérience n'est pas un argument pour une prise en charge précoce chez les Covid des sujets âgés précisément?
Je ne sais pas comment répondre à cette question. Je pense que le sujet âgé, en fait, décompense une fragilité qui était déjà préexistante pour la plupart, pour ceux qui survivent. On a vraiment ces phénomènes de cascade qu'on observe. Chez le sujet jeune, je ne suis pas sûre que ce soit un phénomène de cascade réellement comme on l'observe dans les syndromes de fragilité. J'ai plutôt l'impression que là, on est vraiment sur quelque chose d'auto-entretenu. Quand vous avez fait un Covid, que vous avez été hospitalisé, que vous avez plus de 75 ans, que vous êtes tout seul, que vous avez des problèmes de déplacement, qu'avec le Covid, vous avez eu de la fièvre, vous avez eu peut-être des petits micro-thrombies cérébraux, ben ça, finalement, ça suffit à faire décompenser des patients qui étaient au départ plutôt fit. Mais quand vous allez faire une imagerie, vous allez voir qu'il y a eu quand même des événements thromboemboliques. Finalement, vous allez peut-être interroger. Voilà, je crois que ce n'est pas tout à fait la même pathologie.
Alors, il y a ce n'est pas une question, c'est peut-être un témoignage d'un médecin qui dit « Bonsoir à tous, merci. Quelles sont les pistes sérieuses de traitement médicamenteux pour enfin nous guérir? Je suis à 19 mois de Covid long, dysautonomie, malaise, vertige, nausée, épuisement. Je veux retourner à ma vie d'avant, mars 2020. Merci, bon courage. » Bon courage à toi, donc, pour l'aider. Qu'est-ce qu'on peut dire?
On peut dire que c'est ce qu'on voit depuis des mois, et je suis vraiment navrée pour ce confrère. Pour l'instant, de pistes sérieuses, médicamenteuses, je parle, je n'ai pas vu passer de données probantes. Donc j'espère qu'on aura des papiers sur les quelques études sur les pistes, on va dire, de traitement. Il y a des corticoïdes qui sont essayés, il y a des immunosuppresseurs, on retrouve finalement tout ce qui a été déjà testé dans les syndromes de fatigue chronique. Il y a le coenzyme Q10, j'ai vu qu'il y avait au moins trois études dans Clinical Trial sur le coenzyme Q10. On n'a pas de réponse. On a beaucoup d'études aussi qui sont sur le réentraînement à l'effort. Moi, je ne suis pas sûre que ce confrère puisse être dans cette... Voilà. Par contre, débat de contention, oui, par contre, je dirais déjà de commencer par ça. C'est un peu léger, je suis désolée.
Un petit mot sur le problème respiratoire.
Très volontiers.
Je suis là. D'abord, pour d'autres confrères, j'ai mis 2 ans pour me remettre d'une hépatite E il y a 25 ans, donc peut-être qu'il faut attendre encore un peu, ça va venir tout seul. Pour ce qui est des problèmes respiratoires, je crois qu'on distingue 3 cas. Ceux qui ont eu un Covid sévère et qui ont des séquelles de réanimation et autres, ça c'est logique. Hein. Dans ceux qui n'ont pas eu de Covid sévère, je pense que c'est très important cette différence que tu as fait entre les deux. Il y en a en effet qui ont un syndrome d'hyperventilation, au repos ils ont une saturation à 99, c'est qu'ils gèrent mal leur stress et qu'ils respirent trop vite ou qu'il y a un déséquilibre hormonal. On le voit aussi chez des gens qui n'ont pas eu le Covid et qui sont inquiets actuellement parce qu'ils pensent à leur respiration, parce que le masque fait forcer pour la respiration. Avec un masque, on n'est pas en hypoxie, on est en hyperoxie, en fait, parce qu'on force, parce qu'on a l'impression qu'on manque d'air. Et cela, bon, c'est pas très grave. Et puis, il y a ceux qui ont un bilan strictement normal, parce que souvent, à 3 mois, ils ont un scan normal, une EFR normale, et qui se sentent essoufflés. Et en fait, ils ne sont pas essoufflés, je crois, ils sont fatigués. Et on les remet dans ce cadre de ces Covid longs. Ils traduisent ça par un essoufflement, mais en fait, c'est une fatigue.
C'est ça.
J'ai cette impression.
La même. Pareil.
Tu n'as pas fini, Frédéric, les questions arrivent. C'est qu'on avait prédit.
Elles n'étaient pas posées, elles sont posées au fur et à mesure. Quelle efficacité en préventif et en curatif des vaccins anti-Covid sur les Covid longs?
Alors, je savais que la question, elle allait venir. J'ai pas vu passer grand-chose. Il y a beaucoup. J'ai reçu au fur et à mesure des tweets sur des choses qui étaient déposées sur la plateforme, notamment Medrix. Mais de toute façon, on recommande à tous les patients de se faire vacciner. Ça, c'est la première chose. Il n'y a pas de doute là-dessus. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on a l'impression qu'un certain nombre de patients, et moi, j'ai demandé à tous mes patients de m'écrire quand ils sont vaccinés sur ces fameux Covid long, et c'est vrai qu'il y a des patients qui sont franchement améliorés après la vaccination. Est-ce que c'est un effet de rassurance parce qu'on se dit, bon, c'est bon, on n'y repassera pas? Est-ce qu'il y a vraiment un effet immunitaire où on a l'impression qu'on remet en route le système alors qu'il pédalait dans la semoule depuis quelques temps? Je pense que la question, on aura beaucoup plus de réponses là dans les quelques mois qui viennent. Il y a des travaux là-dessus.
Qu'en est-il des enfants? La HAS a pris en compte le Covid long pédiatrique dans ses réponses rapides, mais les associations voient arriver les enfants et les adolescents très impactés.
Alors, j'ai pas du tout l'expérience pédiatrique. Donc, j'ai une sœur qui est pédiatre, donc je peux pas me permettre. Mais en tout cas, dans les syndromes de fatigue chronique post-infectieux, je vois beaucoup d'adolescents, donc c'est une réalité. Et je suis ravie qu'on prenne en charge ça aussi et en considération.
Une question précise qui est un cas clinique apparemment. Un homme de 50 ans sorti d'hospitalisation avec 2 litres minute, des dédimères à 664, des douleurs au niveau des mollets, un échodoppler qui montre simplement des dilatations des veines proximales qui sont dépressibles, indication d'une tomodensitométrie, intérêt d'un traitement anticoagulant.
Mais j'en sais rien. Non, mais je veux dire, oui, bien sûr que moi, je lui ferai un angioscan, c'est clair. Le Doppler, là, ne me parle pas vraiment. Il a des dédimères positifs, il est sorti d'hospice. Moi, je pense qu'il faut rescanner ses patients. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Alain, mais moi, je le rescannerai volontiers.
Oui.
Voilà.
Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a pas toujours assez de littérature sur l'effet du genre femme-homme sur le Covid ou le Covid long. Avez-vous des données à ce sujet?
Alors, qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? Une chose est claire, c'est que les Covid longs après petit Covid, c'est majoritairement des femmes. Ça, c'est les données de la littérature. Après, les causes, pour l'instant, c'est comme les syndromes de fatigue chronique, c'est comme les fibromyalgies, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais dans les troubles somatiques, fonctionnels et autres, on a une plus grande prévalence des femmes. Vaste question.
La prise en charge avec le pacing est un peu connue, est peu connue pardon, en France, mais conseillée dans plusieurs pays anglo-saxons. Pouvez-vous en dire 2 mots?
Alors, le pacing, effectivement, c'est très utilisé pour les syndromes de fatigue chronique et ce qu'on appelle les encéphalomyélites myalgiques ou les syndromes d'intolérance systémique à l'effort. Souvent, ce que je dis aux patients, c'est que vous êtes un iPhone ou un téléphone. Désolée, je n'ai même pas d'iPhone. Mais en gros, vous avez une batterie. Et quand vous avez votre téléphone neuf, votre batterie, elle vous permet, vous êtes à 100%, vous allez faire plus de 24 heures. Quand vous avez un problème de type Covid long ou syndrome de fatigue chronique, votre batterie, elle vous affiche 100%. Et puis une fois que vous avez fait 2-3 coups de fil, vous êtes allé bosser, votre batterie, elle est déjà à 30%, alors que vous avez à peine commencé. Et c'est vraiment cette décharge rapide des batteries. Et les patients le comprennent très bien, et d'ailleurs l'expliquent, c'est des patients qui m'ont ramené ces métaphores. Et en fait, il faut que vous restiez au niveau d'un certain seuil, que vous pensiez à vous rebrancher, parce que sinon, quand vous avez défait la batterie jusqu'à 10% ou 0%, à ce moment-là, il faut 24 heures pour repartir. Et la technique pacing, elle est basée là-dessus, c'est-à-dire de pouvoir déterminer à partir de quel moment votre batterie se vide et se ferme. Et on les voit, il y a des patients qui font ce qu'on appelle les malaises post-effort, qui s'allongent, qui ne peuvent plus bouger. Il faut qu'ils se rebranchent, il faut qu'ils s'allongent, il faut qu'ils se reposent. Et on l'observe ça même avec l'effort intellectuel. Donc le pacing, oui, moi je suis très à fond pour le pacing. C'est un petit peu la nuance que j'introduisais tout à l'heure sur le réentraînement à l'effort. Il y a des patients, il faut prendre son temps, il faut regarder ce qui se passe. Et des patients qui vous disent que le lendemain, à chaque fois qu'ils ont fait la séance de kiné, ils sont fracassés pendant 3 jours jusqu'à la prochaine séance de kiné. Il faut réduire la voilure.
Alors, il y avait une question là où on dit on parle beaucoup de troubles olfactifs, mais peu de troubles du goût. Connaît-on le mécanisme, y a-t-il un lien avec les neuropathies ?
Alors ça, c'est pas de mon domaine. On a eu une très belle présentation par Laurent Suchet qui nous a expliqué tout ça. Je suis incapable de vous répondre sur le plan physiopathe. Voilà. Je vous conseille d'appeler un bon ami neurologue qui sera meilleur que moi.
Intérêt de l'oxygénothérapie hyperbare dans l'anosmie long post-Covid.
Là, c'est pareil, c'est un truc de spécialiste. Je sais qu'en Espagne, ils travaillent justement sur l'oxygénothérapie hyperbare, notamment dans une grande clinique de fatigue tout venant. Il y a eu quelques papiers qui ont été faits justement par analogie dans le syndrome de fatigue chronique. Je pense que ça va être l'objet aussi de travaux et peut-être de cas anecdotiques. Hein, si vous avez des patients qui s'améliorent, bah, tant mieux. Hein. J'ai pas vu passer de papier à ce sujet.
Et il y a eu une question sur mon téléphone et pas ton ordi, posée par Christian Coulanges, mais qui était rapportée. Quel parallèle faire avec la fibromyalgie ? Et j'ajouterais à sa question, est-ce que cette pathologie long Covid ne va pas faire progresser dans les pathologies connues sur lesquelles on traîne un petit peu, comme
clairement.
La fibromyalgie ?
Toute façon, quand on n'a pas une lésion, un anticorps, hein, quelque chose de très précis, c'est un trouble somatique fonctionnel. La fibromyalgie, le syndrome de fatigue chronique, les syndromes d'hyperventilation, tout ça, ça rentre dans le même cadre. Donc effectivement, le Covid long, c'est bien parce que ça ramène un petit peu tout ça. On a des patients qui se présentent de façon très douloureuse, d'autres patients qui sont plutôt fatigués. Oui, ça va faire progresser. Moi, j'en suis ravie parce qu'on en voit toute la journée. Ce sont des patients quand même qui ont des parcours de vie complexes, douloureux, des activités professionnelles qui souvent s'arrêtent un petit peu violemment. Donc je suis ravie qu'on puisse progresser là-dessus. Après, en termes de mécanismes, il y a beaucoup de travaux donc sur notamment la partie, on va dire, on va probablement encore redimensionner les choses, les cytokines, l'auto-immunité, c'est une chose, mais on commence aussi à les regarder sur certaines, sur les mastocytes par exemple, que ce soit les fibromyalgiques, que ce soit les syndromes de fatigue chronique, que ce soit les douloureux chroniques, on sait qu'il y a des activations mastocytaires un petit peu anormales. Ça rejoindra aussi, il y a beaucoup de patients qui ont des antécédents d'allergie dans les Covid longs. Il y a probablement des dysfonctionnements mastocytaires qui vont peut-être nous permettre de comprendre aussi certaines pistes. C'est quelque chose que je n'ai pas abordé. Ah, ce sera encore plus long dans un an, parce qu'on aura encore plus de littérature, je ne suis pas sûre que vous ne me réinviterez pas.
On va dire merci et donc reviens vite,
merci
au moins
beaucoup.
Dans un an.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.